This is Radio Free Europe.
9 minutos en Colombia.
محليا راديو روزانا في باريس.
مادونا راديو جلوبال.
From CNN Radio 7.
راديو داشا.
O Brasil quer se
vingar. Turquia fotora. Slava Russia.
Bonsoir et bienvenue. Un jour dans le monde aujourd'hui dans les studios du Parlement européen à Bruxelles. Nous sommes ici pour rencontrer le docteur Denis Mukwege. Il vient à peine d'arriver du Congo, de RDC, où il travaille comme gynécologue. Pas n'importe quel gynécologue, puisque son travail consiste à soigner les femmes victimes de crimes sexuels absolument abominables. Ces femmes qui sont les victimes collatérales d'une guerre sans fin dont Éric Valmire nous parlera également tout à l'heure. Un jour dans le monde avec le docteur Denis Mukwege entre Bruxelles et le Congo, c'est tout de suite.
France Inter, un jour dans le monde, Nicolas Demorand.
Nous sommes très heureux de vous recevoir, Denis Mukwege. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur France Inter. À mes côtés pour vous interroger, Dominique André, que je salue. Bonsoir, Dominique.
Bonsoir, Nicolas.
Et que je remercie, je vous remercie infiniment, Dominique. C'est grâce à vous que cette rencontre a pu avoir lieu avec le docteur Mukwege au micro de France Inter. Je le disais, vous venez d'arriver en Europe pour recevoir le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit, remis par le Parlement européen. Ce n'est pas le premier prix que vous recevez. Celui-ci, en particulier, vous le recevez dans quel état d'esprit ?
Je vous remercie d'abord pour la question et me recevoir à ce plateau. Ces prix, nous les recevons avec un esprit d'espoir, puisque nous nous disons que si 28 pays européens ont décidé finalement à travers leurs parlementaires de nous donner ces prix, c'est que vraiment il va y avoir un coup de projecteur sur la tragédie humaine de l'Est de la République démocratique du Congo, où les femmes, finalement, leur corps est devenu un champ de bataille. Et je crois que ce sont des choses qui doivent cesser.
Le prix ne doit donc pas rester dans l'ordre symbolique. Il doit enclencher vertueusement un mouvement politique. En tout cas, vous l'espérez.
Mon espoir, c'est que ces prix puissent en fait nous accompagner sur notre chemin de la paix et de la démocratie en République démocratique du Congo, condition pour que ces femmes puissent retrouver une vie normale.
Dominique André, une question de la part d'auditeurs africains sur les réseaux sociaux.
Oui, nous avons effectivement lancé un appel sur les réseaux sociaux africains, Dr Mukwege, et beaucoup de jeunes africaines nous ont contactés. Alors tout d'abord, beaucoup sont déçus que vous n'ayez pas eu le prix Nobel de la paix, elle trouve ça injuste. Et cette question sur le prix Sakharov, Dr Mukwege, est-ce que vous pensez que ce prix attribué par l'Europe va signifier plus d'engagement politique et plus d'action de la part de l'Europe? L'espérez-vous?
C'est vraiment notre espoir, puisque sinon, si un prix ne peut pas aider à pouvoir soutenir une cause, ce prix n'a aucune signification.
Pour oui, nous, si ce n'est donner de la bonne conscience à ceux qui remettent le prix.
Et en fait, des honneurs qui ne résoudent pas le problème.
Alors donnez-nous, Dominique, puisque vous avez la parole, quelques éléments de portrait de notre invité ce soir, le docteur Mukwege. Ses photos, son portrait sont partout dans le Parlement européen ici, mais dites-nous qui il est, d'où il vient, ce qu'il fait.
Le docteur Miracle, c'est ainsi que vous appelez les femmes que vous réparez, car vous réparez les femmes des blessures que leur ont infligées les groupes armés dans l'Est de la République démocratique du Congo. Blessure, le mot est-il d'ailleurs assez fort? Il est plutôt question de mutilation, d'un carnage des corps et des âmes. Le docteur Denis Mukwege est gynécologue congolais. Il a fondé l'hôpital de Panzi. Près d'une dizaine de femmes y arrivent chaque jour, 300 par mois, 40 000 en 15 ans. On dit que depuis le début des conflits dans cette région, 500 000 femmes ont été violées en RDC. Le docteur Mukwege, dont la vie est menacée, a échappé à un assassinat en 2012. Il se bat pour qu'on entende ces femmes, pour que ces viols massifs et systématiques, qualifiés de crimes de guerre, ne restent pas impunis.
Merci Dominique. La tentative d'assassinat, votre propre sécurité, comment vivez-vous avec ces menaces, Denis Mukwege ?
Actuellement, en fait, je continue à faire mon travail, mais je vis à l'hôpital. Donc, je travaille à l'hôpital et je vis à l'hôpital pour réduire au maximum de mouvements et donc avoir le plus de sécurité. En fait, lorsque je dois voyager, malheureusement, j'ai encore besoin de l'escorte des Nations Unies pour aller de l'hôpital à l'aéroport. C'est un peu dommage que je n'ai pas ma liberté.
Eh bien, on va y aller dans votre hôpital à Panzi, près de Bukavu, dans le sud Kivu. Écoutez ce reportage sur un lieu que vous connaissez bien, hein, évidemment, vous y vivez. Un reportage signé Léa Lisa Westerhoff et Mehdi Medeb.
2037, hein?
Un grand cahier ouvert devant elle, une infirmière fait le décompte. De 1937 femmes soignées depuis le début de l'année, la moitié pour violences sexuelles. Dans l'hôpital au milieu des collines, le travail ne manque pas. Chaque jour, près d'une dizaine de patientes sont prises en charge, des femmes blessées, abîmées au plus profond de leur intimité. Comme cette jeune femme, Rose, otage sexuelle pendant 3 très longues années.
J'étais prisonnière avec une autre femme. Ils étaient 5 à nous violer, moi et cette fille. Ils nous violaient à tour de rôle. Le jour, leur vie était de piller des villages, sans cesse. Puis le soir, ils revenaient et nous violaient. Ils nous laissaient ensuite complètement nus. Nous étions malheureuses et nous ressentions une souffrance extrême.
Comment se reconstruire quand on a vécu l'horreur? Chaque matin, Divine se pose cette question. Son mari a été tué sous ses yeux. Son dernier fils, âgé de 3 ans, lui rappelle chaque jour le cauchemar de son viol.
L'enfant que vous voyez là, je l'ai eu avec un homme dont je ne connais ni le nom, ni l'ethnie. Quand il sera grand, il me demandera qui est son père. Et je suis incapable de lui donner une réponse. Cette question me hante, et tout cela me dépasse.
Pour faire face à l'innommable et réparer, des psychologues et assistantes sociales sont là. Une mission d'écoute difficile, les témoignages ne connaissent aucune limite dans la cruauté.
Nous souffrons, nous, comme les assistantes sociales ou bien les médecins qui soignent, en écoutant tous les jours les histoires horribles que passent nos mamans. Elles sont traumatisées physiquement, psychologiquement, moralement. Ça nous fait fatiguer vraiment.
Fatigué, mais toujours debout. Et ce même si en 15 ans, le fléau des violences sexuelles n'a jamais reculé dans l'est du Congo. Une réalité qui laisse la coordinatrice médicale de l'hôpital, Dr Nema Rokungu, totalement perplexe.
Pourquoi il n'y a pas de solution jusque maintenant? 15 ans après, c'est impossible, quoi. Ça devient une impression qu'on est vraiment oublié et que toutes ces femmes n'ont personne malgré tous les cris qu'on a faits.
Une collègue médecin renchérit et dénonce l'impunité, trop souvent la règle dans les affaires de viol.
Quelqu'un est viole là-bas, et puis demain encore on le relâche. Si c'était les hommes qui étaient violés, ça n'existerait plus. On n'aurait peut-être pas fait une année. On dit 20 ans, 2 ans après on relâche cette personne. Qu'est-ce qu'on donne en réparation à ces femmes? Presque rien. Presque rien. Et puis, cette femme, pour reprendre la dignité de quelqu'un, c'est de lui dire et crier et dire à tout le monde que cette femme, ce n'est pas en réalité elle la coupable. Il y a un coupable qui a fait ça et lui donner cette valeur.
Le plus dur en effet, c'est de revivre physiquement, mais surtout socialement, alors que la communauté stigmatise et isole les femmes violées. Plus de 15 ans après sa création, l'hôpital Panzi et le docteur Mukwege restent une exception en République démocratique du Congo. Un des rares refuges pour ces femmes martyrisées. L'établissement est débordé, il en faudrait des dizaines d'autres. Depuis sa création, 40 000 femmes y ont été soignées.
Voilà pour ce reportage de Léa Lisa Westerhoff et Mehdi Medeb dans votre hôpital, donc près de Bukavu, dans le sud Kivu. Le mot de viol a évidemment été prononcé dans ce reportage, le mot d'otage sexuel également. Ce n'est pas par voyeurisme, mais simplement par volonté d'être précis et de savoir de quoi nous parlons exactement. Vous avez dit que tout à l'heure, le corps des femmes était un champ de bataille. Dans quel état recevez-vous les femmes dans votre hôpital ?
Aujourd'hui, nous utilisons le mot viol, mais je pense que ces mots deviennent de plus en plus inappropriés dans le contexte des conflits, où le viol est commis juste pour traumatiser, terroriser les communautés entières. Et les malades que nous soignons, en fait, Leur histoire est presque la même. Elles sont violées, mais après avoir été violées, elles subissent des tortures qui portent sur les organes génitaux.
De quelle nature ?
Et ce sont des blessures qui vont des brûlures par de plastique chaud, de blessures par introduction dans l'appareil génital de baïonnettes, de morceaux de bois. Nous avions eu des malades qui, après avoir été violés, leur bourreau ont tiré tout simplement par arme à feu dans l'appareil génital. Et donc ça détruit le rectum, ça détruit la vessie. Et donc vous comprenez qu'utiliser le mot viol, c'est faible pour pouvoir dire ces viols avec extrême violence et qui se font en public, donc devant les enfants, devant le mari, devant le voisin, juste pour amplifier le traumatisme de toute une communauté.
Et donc, docteur, il faudrait plutôt parler d'une volonté délibérée de destruction des organes génitaux des femmes.
Exactement. Je pense que, en fait, c'est une guerre qui se passe sur le corps de la femme pour détruire pas seulement la femme, mais détruire sa famille et détruire toute la communauté. Et je dois dire que ce type de viol, on le voit maintenant, il commence à se généraliser dans tous les conflits. C'est une attaque contre notre propre humanité.
J'aimerais avoir encore des faits et d'autres faits aussi terribles qu'ils soient, et ils le sont quand on vous entend décrire ce qu'est votre travail tous les jours. Les femmes concernées ont quel âge en général ? Il paraît que ça peut commencer extraordinairement jeune, quasiment à l'état de nourrisson.
Je crois que la victime la plus jeune que j'ai soignée avait 6 mois. Et vous pouvez vous imaginer un enfant, un bébé de 6 mois qui est violé. Et donc ce sont des bébés qui m'arrivent avec tous les périnées complètement déchirés, une communication entre le rectum et le vagin. Parfois la vessie est atteinte. On a eu des bébés qui venaient carrément avec tout l'intérieur qui sort par cette blessure au niveau du vagin. Et je crois que ce sont des blessures qui traumatisent non seulement la famille qui voit leur bébé dans cet état, mais ça traumatise également le personnel soignant. Je crois qu'une de nos infirmières disait là qu'elle est fatiguée, mais elle voulait exprimer en fait ces traumatismes qui est subi, même le personnel qui prend en charge ce type de blessure. Et le plus âgé que j'ai soigné avait plus de 80 ans.
Une femme de plus de 80 ans.
En fait, je me rappelle très très bien une femme de plus de 80 ans qui me disait « Ce que j'ai subi, moi je ne peux plus vivre ». Et elle avait décidé de ne plus manger, de ne plus boire, puisqu'elle disait qu'elle n'a plus le courage d'aller regarder en face ses petits-enfants, puisqu'elle avait été violée en présence de ses petits-enfants et qu'elle ne pouvait plus retourner dans son village.
Et elle vous demandait, docteur, de l'aider à mourir plutôt que de la soigner ?
C'était à peu près ça, puisqu'elle disait « Pourquoi vous me soignez ? Pensez-vous que moi je peux retourner dans mon village ? Pensez-vous que moi, je peux encore aller regarder mes enfants, mes petits-enfants, les regarder dans les yeux après ce que j'ai subi ? Et donc, cette vieille femme, elle nous a dit, votre travail, je suis reconnaissante, mais je ne vais plus retourner dans mon village. Et on a essayé de l'encourager, mais elle avait pris sa décision.
Donc, on parle bien de femmes, si j'ose dire, de l'âge de 6 mois, de nourrissons, jusqu'à des dames âgées de près de 80 ans. C'est l'ensemble des femmes qui se trouvent victimes des violences sexuelles dont on parle.
Absolument, c'est une guerre contre les femmes. Et je pense qu'on s'attaque aux femmes, puisque les femmes représentent la société, la famille. Les femmes, c'est la valeur même de la société, et lorsqu'on les détruit en présence de toute la communauté, c'est pour dire à la communauté voilà ce que nous sommes capables de faire de vous.
Dominique André, question, puis Eric Valmire.
On a entendu dans ce reportage de Léa Lisa Besteroff donc le témoignage de Divine qui dit quelque chose de bouleversant. Cette question du viol me hante, ça me dépasse. Comment avez-vous aidé Divine à se reconstruire et toutes les femmes que vous avez soignées, docteur Mukwege?
En fait, lorsque les femmes arrivent à l'hôpital, ce qui les amène à l'hôpital, c'est surtout des blessures physiques. Mais lorsque vous commencez à parler avec elles, vous vous rendez rapidement compte que en dehors de ces blessures physiques, elles ont un traumatisme psychologique qui est assez profond. Et donc, la première chose que nous faisons, c'est essayer de savoir le niveau du traumatisme des victimes qui arrivent à l'hôpital. Nous avons une équipe d'assistantes sociales, nous avons également des psychologues et des psychiatres qui s'occupent de ces malades pour d'abord le remonter sur le plan psychologique. Il y a une phrase que toutes prononcent pratiquement, elles disent « moi je ne suis plus ».
Et je ne suis plus.
Voilà. Et donc il faut absolument les amener à reverser cette phrase et dire « je m'appelle divine ». Et ça, elles ont des difficultés même de se rendre compte qu'elles sont. Et là, c'est le psychologue qui les aide, puisque si vous vous mettez à les opérer dans cet état, souvent, en fait, en post-opératoire, elles ont des réactions, parce qu'une opération, c'est également un traumatisme, elles ont des réactions qui peuvent aller jusqu'au drame. Et donc, la première chose que nous faisons, c'est de les soutenir psychologiquement. La deuxième phase, c'est les opérer. Et la troisième phase, lorsqu'elles sont bien physiquement et psychologiquement, souvent, elle dit « je connais celui qui a fait ça, je veux que justice soit faite ». Et là, nous avons des avocats qui peuvent les accompagner devant les cours et tribunaux. Et en fait, la quatrième phase, c'est les réinsérer dans la société, leur donner la possibilité de recommencer la vie. Et là, nous avons plein d'activités génératrices de revenus ou tout simplement à retourner à l'école pour le plus jeune. Et ça permet à ce que nous puissions faire ces traitements que nous appelons un traitement holistique.
Un jour dans le monde exceptionnel avec un homme exceptionnel, le docteur Denis Mukwege. Nous sommes ici dans les studios du Parlement européen à Bruxelles. On se retrouve pour la suite de cet entretien juste après ça.
Kalenga walwa pinje.
Retour sur le plateau d'Un jour dans le monde. C'est une émission spéciale avec le docteur Denis Mukwege. Vous êtes bien sur France Inter. À mes côtés, Éric Valmire, Dominique André. Dans quelques instants, Éric, bonsoir.
Bonsoir, Nicolas.
Vous nous donnerez les causes du conflit dont on voit à quel point les conséquences sont dramatiques pour l'ensemble des femmes. J'aimerais juste avant poser une question supplémentaire au docteur Mukwege. On entendait le personnel de votre hôpital dire, face à autant d'horreurs, face à autant de malheurs, nous avons parfois un sentiment de fatigue, d'immense fatigue en nous. Vous, comment vivez-vous les choses? Vous qui côtoyez depuis tant d'années ces atrocités, est-ce qu'à un moment vous n'êtes pas tout simplement comme être humain débordé avec les bras qui tombent et l'envie de passer à autre chose?
C'est la réaction normale d'un être humain. Quand on fait un travail, et puis je crois que ce qui est le plus difficile, c'est lorsque vous soignez une dame cette année, et une année après, elle revient avec une blessure que vous ne savez plus soigner, puisque souvent, lorsqu'elles ont de ce que nous appelons des fistules, donc des communications entre des organes, et là c'est spécialement entre le rectum et le vagin, ou la vessie et le vagin, et que vous la soignez, vous étiez content pour les résultats, la femme était partie très contente, et qu'une année après elle revient, en fait elle a encore été violée, elle a été encore blessée, et que cette fois-là vous avez une destruction qui ne vous permet plus de réparer. Effectivement, ça pèse sur votre morale et vous avez le sentiment que votre travail ne sert à rien. Mais je crois que le courage des femmes, ça, il faut le souligner. Ces femmes sont tellement courageuses, elles ont tellement envie de recommencer leur vie, de reprendre, se battre pour elles-mêmes, mais aussi pour leurs enfants, pour leur famille, que vous êtes là et vous dites « je vais être du côté de celles qui veulent se battre pour une bonne cause ».
Elles ont cette force encore, en dépit de la volonté qu'on a eue de les tuer moralement, physiquement, humainement, métaphysiquement.
C'est ça qui nous fait vivre, c'est ça qui fait que nous soyons là. Parce que je crois que ce que j'ai découvert moi-même, c'est une force inimaginable des femmes. C'est que lorsque vous la soignez, qu'elle sort par exemple de son coma, et que la première question, ce n'est pas quel est mon avenir, comment ça va se passer, mais la question c'est comment va mes enfants, est-ce que mes enfants ont eu à manger. Moi je me dis, mais ça c'est quel courage. Et je crois que ces femmes, elles se battent à un point où je suis très très admiratif de leur courage.
Vous êtes médecin, vous n'êtes pas philosophe, vous soignez, vous avez évidemment le temps de réfléchir et de penser, mais est-ce que vous vous dites parfois que vous côtoyez de fait nécessairement le pire de ce que peut être un être humain, le pire?
Je crois qu'il y a des faits qui vous donnent des insomnies, il y a des faits qui vous questionnent sur l'être humain. Je suis arrivé à me poser des questions sur le comportement même animal, où les animaux ne s'attaquent pas à leurs petits. Comment expliquer qu'un être humain qui réfléchit puisse s'attaquer à son petit, à son bébé? Et ça, effectivement, même si on n'est pas philosophe, on se pose cette question.
Et donc, vous êtes face à des impasses à certains moments, en vous disant, mais pourquoi, comment?
Absolument. Et je crois que au début, je me disais, mais je ne comprends rien. Je ne comprends pas comment un être humain peut se comporter comme ça. Mais quand j'ai commencé à parler avec les bourreaux, ce sont des enfants de 10-12 ans qui sont en fait qui subissent des lavages de cerveau par les adultes et qui après les lancent pour aller faire des destructions. Je crois que les génies de l'homme pour détruire, c'est inimaginable, puisque finalement un enfant de 10 ans, tout ce qu'on peut lui dire en lui promettant une arme et une kalachnikov, il y croit et il fait de choses incroyables, puisque tout simplement les adultes lui ont inculqué ça, lui ont appris à faire ce mal. Et là je crois que c'est quelque chose d'odieux et il faudrait absolument qu'il y ait plutôt des réactions pour arrêter ça.
Question de Dominique André, puis Eric Valmire.
Alors, on pense qu'il y a à peu près un demi-million de femmes qui ont été violées en RDC en 20 ans, docteur Mukwege. Bien évidemment, on s'interroge sur les raisons de ces viols massifs et systématiques. Quels sont les objectifs politique. Est-ce qu'on peut parler d'objectifs politiques des groupes armés, des milices qui sévissent dans l'est de la RDC ?
Absolument. Il y a des objectifs politiques, il y a des objectifs économiques. Puisque finalement, lorsque ces viols se commettent en public, devant tout le monde, c'est vraiment essayer de diminuer la population, déshumaniser la population. Mais la réaction de la population, souvent, c'est quitter leur village pour chercher la sécurité ailleurs. Donc ça, c'est un déplacement massif de la population. Détruire l'appareil génital de la femme ou même des bébés, ça veut dire tout simplement qu'on est en train de détruire même des enfants avant qu'ils naissent. C'est une politique démographique qui est très grave, puisque toutes ces femmes-là qui ont des destructions de l'appareil génital, la plupart n'auront plus des enfants après. Et donc, il y a une réduction démographique. Mais ces femmes sont contaminées également du VIH-Sida et qu'elles peuvent horizontalement contaminer le VIH-Sida à leurs contacts, mais également verticalement, leurs enfants, si elles sont enceintes, peuvent être contaminées du VIH-Sida. Sur le plan démographique, ça a un impact. Sur le plan économique, l'économie de l'Afrique est portée par les femmes. Au Congo, je ne vois rien sur le plan économique sans les femmes. Elles sont dans l'agriculture, dans l'élevage, dans les transports. Finalement, ce sont les femmes qui portent l'économie. Mais lorsqu'elles sont malades, volontairement, on les contamine le VIH volontairement. Lorsque ces femmes présentent des communications anormales de leurs organes, donc elles sont exclues. Sur le plan économique, c'est un manque à gagner énorme. Et je crois que l'ensemble de ça, il y a tout le tissu social qui est détruit. Et lorsque le tissu social est détruit, avec ces enfants qui nécessitent du viol, donc qui se retrouvent dans la communauté, cette maman qui vient de témoigner, elle dit à chaque fois quand je vois cet enfant, je me pose la question, comment je vais porter un enfant, je ne connais pas son ethnie, Et donc toutes ces questions, malheureusement, c'est cet enfant issu du viol qui paye, mais qui se trouve dans la communauté. Donc il y a un désordre, il n'y a pas de filiation, le tissu social est détruit. Et l'ensemble de ça, c'est pour que toute la population soit complètement démotivée, que la population quitte le village et laisse le village en fait au bourreau qui l'exploite.
Alors Eric Valmire, vous allez nous parler des causes maintenant, des causes de ce conflit dont les femmes, on l'entend, sont massivement victimes.
Alors, au début, on appelait ça la seconde guerre du Congo. Elle a démarré en 1998 sur les séquelles du génocide rwandais. Elle implique 9 pays africains, l'Angola, le Zimbabwe, la Namibie, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, le Congo, le Tchad et le Soudan, plus 30 milices. Le 30 mai 2003, cette guerre prend fin, dit-on, grâce à des accords de paix, sauf qu'elle prend en fait une autre forme, on appelle désormais la guerre du Kivu. Et ce qui est à souligner dans ces deux guerres, c'est l'impuissance des Nations Unies, constaté par les porte-paroles eux-mêmes de la MINUSCO, comme Kevin Kennedy.
Quand nous sommes en face d'une force qui est nettement plus agressive, qui ne respecte pas les règles, qui ne respecte pas les cessez-le-feu, qui ne respecte pas les demandes, nous faisons de notre mieux. Mais nous ne pouvons pas permettre à ce que nos gens soient tués au cours de combats où ils ne sont pas capables de répondre. Le fait est que nous sommes dans une position extrêmement vulnérable, c'est sûr.
Alors une des raisons de ce conflit, c'est le coltan, un minerai indispensable à la fabrication des tablettes et des smartphones. Il y a un siècle, dans cette région, on se battait pour le caoutchouc, parce qu'à l'époque, c'était l'industrie du pneu. Aujourd'hui, c'est le coltan. David Van Reybroek, historien flamand.
Mais ce serait trop facile de réduire ce conflit à la présence des ressources naturelles extrêmement riches. Il y a ça, bien sûr, mais il y a aussi des autres facteurs.
Interethnique ?
Si, il y a un conflit qui se manifeste à travers des discours ethniques. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, l'ethnicisme, le tribalisme n'était pas vraiment en jeu. Ce n'est qu'avec la montée en puissance de la surpopulation que le conflit s'est traduit dans des termes ethniques. Mais ce qui joue, et je pense que c'est vraiment un élément majeur dans ce conflit, on en parle très peu, c'est aussi la fragilité de l'État congolais. On regarde très souvent Rwanda, le Rwanda qui continue à déstabiliser la région, mais il y a aussi la responsabilité de ce conflit se situe aussi bien au niveau de Kigali que de Kinshasa. L'État congolais est extrêmement fragile, voire non existant. C'est un pays sans État, en quelque sorte. Et cette combinaison d'avoir une surpopulation, une richesse minérale et l'absence d'un État fait que le conflit continue. Et la raison pourquoi ça continue, c'est assez simple, c'est plus une guerre. C'est une économie militarisée, ce qu'on voit maintenant. Et donc, toute notre logique, toutes nos métaphores militaires ne fonctionnent plus.
Économie militarisée en raison de présence de richesses naturelles, ce fameux gravier noir dans la boue au poids économique lourd, le coltan, qui contient du tantal, toute la planète en veut. Il s'agit d'un élément chimique adapté au superalliage de l'industrie aérospatiale et aux condensateurs dans le domaine de l'électronique, donc un point de fusion très élevé. La ruée vers le coltan est menée par les grandes multinationales, qu'elles soient chinoises, américaines ou européennes, les régimes des pays frontaliers et les mafias. Les agriculteurs et villageois qui vivent sur ces terres se retrouvent persécutés, chassés depuis des années. Le témoignage de l'activiste congolais Kambale Mouzavouli.
Cela n'a rien à voir avec l'appartenance ethnique. Ils tuent les villageois congolais comme ils tueraient des mouches. Vous voyez comment on écrase un moustique ? C'est de cette manière exactement qu'ils tuent. La façon dont ils tuent les villageois n'a aucune importance du moment qu'ils peuvent s'en débarrasser et accéder aux ressources. Les mines existent, les gens ont toujours vécu ici.
6 millions de morts. 6 millions de morts depuis 1998. On avoisine le bilan de l'Holocauste. 4 millions de déplacés. Alors 6 millions de morts, ce ne sont pas des gens qui sont tombés sous les coups de mortier, parce que près de 4,5 millions de personnes sont mortes de maladies, de famine. Pourquoi ? Parce que, comme le disait le docteur Mukwege, le tissu social est détruit, mais aussi les infrastructures sanitaires. La moindre épidémie, la moindre grippe va vous tuer aussitôt. 6 millions de morts. Ça provoque évidemment la colère des universitaires américains.
En substance, ils vous réduisent à un non-humain. Les gens sont tous réduits au stade de non-humain pour qu'ils ne puissent pas raisonner, pour qu'ils se sentent impuissants, désespérés et qu'ils abandonnent.
Imaginez un peu, c'est difficile à concevoir, mais imaginez si près de 6 millions de personnes mouraient ainsi au cœur de l'Europe et que nous le gardions sous silence.
Des millions de villageois congolais sont morts dans le conflit dont nous parlons aujourd'hui. Et ça n'a occasionné presque aucune couverture médiatique soutenue ou audacieuse à l'échelle mondiale. La situation n'a provoqué aucun impact dans l'imaginaire populaire. Des millions de morts.
6 millions de morts. Alors, ce qui est terrible quand on écoute les banques de reportages ou les interviews même du docteur, vous prenez un reportage en 99, en 2004, en 2012, aujourd'hui, c'est toujours les mêmes témoignages, toujours les mêmes choses et rien ne change. Des ONG envoient leurs volontaires, des enquêteurs relèvent des dépositions, des témoignages. Écoutez par exemple cet échange entre une femme victime d'un viol qui raconte son calvaire à une enquêtrice.
Je vivais avec mon mari. Des hommes du M23 sont venus. Quand ils sont arrivés à la maison, ils ont demandé à mon mari de fuir. Mais moi, j'ai dit que je ne pouvais pas partir. J'étais avec mes 8 enfants. Je suis restée et ils m'ont violée.
Tes violeurs étaient combien ?
Ils étaient nombreux. Le lendemain matin, mon mari est revenu et il m'a questionnée. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il m'a répondu que c'était fini entre nous. Et il m'a dit « Prends tes affaires et pars ». Maintenant, je sens une souffrance très forte.
Les problèmes qu'elle a, elle s'inquiète comment faire vivre ses enfants. En tout cas, moi, je suis tellement affectée avec de telles histoires. Je suis tellement affectée.
Dernière atrocité, j'allais dire presque en réaction à ces enquêtes, parce qu'évidemment, il y a des enquêtes, il y a des réactions. Mais finalement, ces condamnations n'arrivent jamais. Il y a une impunité qui est incroyable. Et en réponse à ces réactions qui essaient de s'organiser sur le terrain, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est un phénomène nouveau, c'est une surenchère, le viol de nourrissons. C'est un message, en fait, des bourreaux aux tentatives de réaction sur le terrain. N'est-ce pas votre sentiment, docteur Mukwege ?
Absolument. Je pense que le viol des bébés, je le compare à la décapitation qu'on voit aujourd'hui, qui se montre au niveau des internets, etc. Donc,
les otages en Syrie, notamment.
Et je pense que violer un bébé et puis le remettre à sa famille, c'est en quelque sorte montrer à la famille la capacité de destruction qu'ont ceux qui commettent ces viols. Et ça, je pense que effectivement, si on n'agit pas, si on ne fait rien pour arrêter ce type de barbarie, c'est comme s'ils sont en train de créer de nouveaux systèmes pour détruire et terroriser les communautés.
Et en conclusion, simplement, Nicolas, ce qu'il faut souligner, c'est vraiment l'indifférence de la communauté internationale et c'est vrai l'indifférence de la planète journaliste.
Alors, précisément, que faire, Denis Mukwege ? Que faire ? Comment la France peut vous aider ? Comment l'Union européenne peut vous aider ? Comment les citoyens désemparés que nous sommes, quand nous entendons les récits des horreurs que vous soignez, comment pouvons-nous faire quelque chose pour ce qui se passe là-bas ?
Je crois que ce que vous faites déjà, le fait de m'interroger, donc me faire passer à cette émission, c'est déjà une réaction positive, puisque je pense que le grand problème, c'est n'est pas être informé. Je crois qu'aujourd'hui, en fait, c'est une armée qui est utilisée, n'est pas donner l'information aux consommateurs. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Union européenne, la Commission a proposé, par exemple, une loi sur le coltan ou les minerais dans des zones de conflit. Je crois qu'il est très, très important que cette loi soit contraignante pour que, en fait, le multinational qui achète, qui sache où est-ce qu'ils achètent, qu'est-ce qu'ils achètent
et à quel prix humain
à quel prix humain ils achètent et que le consommateur soit informé. Parce que je suis certain qu'avec la réaction du consommateur, les multinationales vont faire attention à ne pas acheter moins cher sur, en fait, le prix humain que nous venons de décrire.
Dominique ?
Oui, absolument, Nicolas. Ça, c'est un véritable problème. Est-ce que les multinationales peuvent continuer de fermer les yeux sur ce coltan sale qu'elles achètent ?
Je crois qu'il y a lieu quand même que ce coltan puisse être propre, puisque en fait, ce coltan, on peut l'acheter. D'abord, s'il y a ce qui entretient la guerre, c'est ce coltan. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, s'il y a la paix, la sécurité dans la région, pourquoi ne pas avoir ces multinationales qui peuvent exploiter dans la légalité et payer les taxes qu'il faut et pouvoir continuer à faire leurs affaires, mais de façon propre. Pourquoi trouver cette voie qui est en fait une voie de la destruction humaine pour avoir ces coltans ? Je crois que c'est un choix à faire.
Donc il y a un mélange en quelque sorte de mesures à la fois politiques, à la fois symboliques, à la fois économiques, taper les multinationales aussi au portefeuille, rendre plus contraignant la circulation de ce minerai sale. Il y a aussi, et c'est l'un des chantiers, si j'ose dire, sur lequel vous travaillez, docteur, l'implication des hommes.
Absolument.
Expliquez-nous.
Absolument, parce que je pense que quand j'ai dit que la bataille, en fait, se fait sur le corps des femmes, c'est les hommes qui commettent ces actes. Et je pense qu'aujourd'hui, il est plus qu'urgent que les hommes puissent se mettre debout. Ce n'est pas une question des femmes, ce n'est pas une question des féministes, c'est une question de notre humanité commune. Et je pense que si les hommes peuvent se mettre debout, comprendre d'abord ce qui se passe, parce que je pense que cette confusion qui se fait entre viol et relations sexuelles, ça n'a rien à voir. Ce sont deux choses complètement différentes et il faut faire cette distinction. Et je crois que si les hommes se mettaient debout pour dire, il n'est pas acceptable que notre humanité commune soit attaquée de cette façon. Il n'est pas possible qu'on accepte la déshumanisation des femmes pour avoir des minerais. Je crois que nous sommes capables de tracer une ligne rouge comme on l'a tracée pour les armes chimiques, comme aujourd'hui on a tracé cette ligne rouge contre les armes biologiques. On peut le faire contre le viol utilisé comme une arme de guerre.
Dominique.
Et puis il y a la question judiciaire, Nicolas, que vous avez évoquée, docteur Mukwege. Vous aidez les victimes à retrouver leur bourreau. Les nouvelles unités contre les violences sexuelles dans les tribunaux en RDC sont débordées. Les juges disent qu'ils ont du mal à gérer les dossiers. Les peines contre les auteurs des viols sont très faibles, voire il n'y a pas de peine du tout. Quand les victimes sont enceintes, les juges ne veulent pas se prononcer contre le père, le bourreau qui est un père, parce qu'il doit assumer cette famille. Quel est votre avis ?
Je crois qu'un crime, c'est un crime. Et il n'y a aucune raison qu'un crime ne puisse pas être poursuivi par la justice. Et aujourd'hui, je crois que je m'oppose et nous nous opposons aux arrangements à l'amiable. Puisque le fait que la femme soit enceinte de son bourreau n'excuse pas donc l'acte que le bourreau a posé. Et même si, en fait, les juges peuvent être larges avec le bourreau, ça n'implique pas qu'il va s'occuper forcément de l'enfant, puisque son objectif n'était pas d'avoir l'enfant. Son objectif, c'est humilier, c'est détruire sa victime. Et je pense que là, il faut avoir une fermeté, il faut lutter contre l'impunité, puisque l'impunité, en fait, c'est la voie. Lorsqu'il n'y a pas la loi, lorsqu'on ne peut pas sanctionner, on va tout droit vers la poursuite de ces pratiques.
Denis Mukwege, l'invité spécial de ce Un jour dans le monde spécial. Je tiens à vous dire le plus simplement possible à la fois mon immense émotion et mon immense respect d'avoir pu dialoguer aujourd'hui avec vous. Permettez-moi de vous serrer la main. On est à la radio, ça ne se voit pas, mais je vous serre la main très chaleureusement et je vous remercie infiniment, tout simplement au nom de l'humanité, pour ce que vous faites. Merci encore.
Merci pour... le fait que vous prenez cette question à cœur et que vous voulez que, en fait, la communauté française soit informée, je suis sûr que les réactions peuvent faire la différence.
Merci à vous.
Après ça, le journal.